Je suis tombé sur des textes qui parlaient des déterminismes. Qu'est-ce qui fait que... quelle est notre marge de manœuvre?
Ouais, cet enfant que j'ai à l'intérieur de moi, je veux pas le faire taire.
Tes questions m'ont aussi amené à dire énormément de choses que j'aurais peut-être pas dites spontanément.
Bienvenue dans l'entrée des coulisses, le podcast en trois rubriques qui vous offre une bulle d'évasion et de culture. Je suis Isabelle, artiste et médiatrice culturelle, et je serai votre guide dans les coulisses. Vous me suivez ? Allez-y, on y va. Pour ce hors-série numéro 1 de la saison 4 de l'entrée des coulisses, j'ai eu envie de jeter un coup d'œil dans le rétro. Et donc, de reprendre contact avec trois artistes, histoire de vous donner des nouvelles fraîches et histoire, égoïstement, d'avoir le plaisir de leur reparler. Le plaisir de transmettre, le plaisir pur de jouer entre ombre et lumière. On dirait un poème, non ? En fait, ce sont trois titres d'épisodes. Celui de Tomislav Matozin, chanteur, musicien, celui de Jean-Baptiste Navarrete, comédien, et celui de Diefa, artiste queer. Tous les trois sont venus au micro de l'entrée des coulisses et ont livré à l'époque de très jolies interviews. Alors, que font-ils aujourd'hui? Qu'ont-ils encore à nous raconter? Beaucoup de choses, vous allez l'entendre. Nous avons évoqué, entre autres, le déterminisme familial. Si, si, et c'est loin d'être ennuyeux. La légitimité de son enfant intérieur et l'impact personnel, voire intime, de notre interview. Vous allez donc entendre les trois conversations, celle avec Tomislav, Jean-Baptiste et Diefa. Toutes ces interviews sont les unes à la suite des autres, avec un petit intervalle musical entre les trois. Bonne écoute. Tomislav, merci beaucoup d'être revenu au micro de l'entrée des coulisses. Tu étais l'invité de l'épisode 3, saison 1, et c'était mes grands débuts dans le podcast. Tu avais accepté très très gentiment de participer. On peut dire aux oreilles qui nous écoutent qu'on se connaît quand même depuis assez longtemps. Déjà à travers une association qui aidait donc les musiciens, une association qui s'appelait Musique 94, et aussi à travers différentes petites programmations que j'ai pu faire dans les différents lieux culturels où j'ai travaillé. Voilà. Et ton épisode, justement, pour revenir un petit peu dessus, ton épisode, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais je l'avais baptisé « Le plaisir de transmettre ».
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça te convenait, d'ailleurs, ce titre de podcast ?
D'abord, merci à toi pour tout ce que tu as évoqué et puis d'avoir pensé à moi pour cette émission. Et oui, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que le temps passant et avec les aventures artistiques que je suis en train de vivre, la transmission, ça me va très très bien. Mais je pense que c'est aussi peut-être à ça que j'arrive dans ma vie d'une manière générale. Donc, je me sens bien dans cette position-là.
Oui, en plus, dans le premier épisode, on évoquait tout ton parcours. Donc, tu parlais de ton passé, de ton premier métier d'instit.
Oui.
Tu parlais aussi du projet qui était encore très nouveau à ce moment-là, du Petit Prince.
Oui.
Aujourd'hui, l'héritage Goldman. Donc, je trouve que vraiment, ce titre encore est tout à fait cohérent.
Ah oui, tout à fait.
Le plaisir de transmettre, et toi-même d'ailleurs, je me souviens, tu prononçais ce mot, je suis un passeur.
C'est comme ça vraiment que je vis la chose maintenant. Depuis le Petit Prince m'a vraiment avoir travaillé là-dessus m'a vraiment fait prendre conscience de ça, d'à la fois avoir quelque chose, une activité, quelque chose de créatif, où je fabrique des choses, en l'occurrence des musiques, mais également je m'empare de quelque chose qui existe déjà, qui n'a pas forcément besoin de moi pour être transmis, mais je participe à sa transmission. Mmh. Et voilà, et allier ces deux dimensions-là me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer encore. Et je suis d'ailleurs en train de réfléchir, enfin de travailler à un prochain spectacle que je voudrais faire pareil autour de, alors pas autour d'une seule œuvre, mais sur le même principe que le Petit Prince, c'est-à-dire me baser sur des textes du patrimoine littéraire au sens très très large, c'est-à-dire me baser sur l'écrit, pas forcément même en puisant que dans la littérature, et mettre ça en forme, sous la forme d'un spectacle musical. Parce que la dimension musicale compte vraiment beaucoup pour moi. Je suis musicien au départ.
Bien sûr.
Et c'est toute cette dimension-là qui me permet d'être créatif, d'avoir des idées, d'apporter des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose une nouvelle forme d'expression artistique que j'ai découverte ces dernières années et que j'ai vraiment envie de pousser encore, quoi. Donc ouais. je m'éloigne du format chanson par lequel on puisse connaître, quoi.
Oui, bien sûr, oui, mais c'est normal. Dans une carrière, il y a des évolutions, il y a des virages.
Tout à fait.
Donc tu suis un peu comme ça ton chemin que tu te traces très joliment. Je voudrais revenir sur une petite phrase que tu avais dite dans ton interview, et c'est une phrase qui m'avait touchée. Tu évoquais ton parcours, tu évoquais aussi l'apprentissage que tu as fait de la guitare. Et à ce moment-là, tu as évoqué ton père.
Mmh.
Et tu évoquais donc ton parcours, et à un moment, tu as dit cette phrase.
Mon père était guitariste, il chantait aussi. Ce n'était pas du tout son métier, mais c'était vraiment un passe-temps auquel il s'adonnait beaucoup. C'était vraiment une passion. Je pense même que... Je suis même certain qu'il aurait aimé pouvoir faire une vie de musicien, puis que, par la force des choses, il n'a pas pu. Donc, c'est marrant, il y a une certaine façon, peut-être dans mon parcours à moi, une envie de réparer quelque chose qui était là avant moi, inconsciemment, je ne sais pas. C'est drôle. C'est chouette que tu aies retenu cette phrase-là, parce que c'est vrai que. Je pense très souvent à mon père, et c'est une phrase, enfin quelque chose qui me revient souvent à l'esprit, c'est-à-dire, c'est drôle parce que, bref, il y a quelques temps, je suis tombé sur des textes qui parlaient des déterminismes. Quelle est notre marge de manœuvre sur les choses qui nous arrivent, notre marge d'action, et qu'est-ce qui est déjà presque programmé en nous, par quoi on est agi. Et je trouve ça très intéressant, cette question des déterminismes. Et je pense que c'est un de mes déterminismes d'avoir eu un père qui était musicien, qui jouait de la musique, qui chantait même très très bien, mais qui n'a jamais pu en faire son métier. À la fois, je pense que il m'a transmis des choses telles que l'oreille musicale, un goût pour la guitare. Enfin, il y avait une guitare chez moi, tout simplement. Alors qu'il y a des maisons où il n'y a pas de guitare.
Et non.
Il y avait une guitare chez moi. Et puis aussi peut-être avoir eu un modèle où j'ai pris peut-être consciemment ou inconsciemment je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'inachevé là-dedans en termes de d'accomplissement ou d'émancipation, et peut-être que consciemment ou inconsciemment ça, j'ai pas exactement démêlé tout ça, mais peut-être que je suis agi par ça. En tout cas c'est une chose à laquelle je réfléchis très souvent. Et voilà, parce qu'on me dit des fois, ah, oh, mais dis donc, des copains me disent, t'as jamais rien lâché, mais j'ai jamais eu l'impression de m'accrocher.
Oui,
tu vois, j'ai eu l'impression simplement de suivre quelque chose, et puis avec certaines portes qui s'ouvrent, d'autres non, et puis en me disant, tiens, je vais par là, puis j'explore ceci, puis cela, mais j'ai jamais eu l'impression d'être en train de gravir quelque chose ou de marcher vraiment avec le vent de face et de me dire, ah, vraiment, il faut que je m'accroche. Non.
Oui.
Donc je pense que je suis agi par quelque chose qui est plus fort que moi, et puis qui m'emmène comme ça. Et j'ai la chance, en fait, d'avoir rencontré, ce qui est la source de mon émancipation personnelle et professionnelle.
Oui.
Et je me dis, mais il y a tellement de gens, ils n'ont pas alors je veux dire chance, mais je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais ils n'ont pas cette occasion dans la vie de pouvoir faire la rencontre, percuter à un moment donné dans leur vie le truc qui va leur permettre d'exister, quoi.
Ouais.
Enfin voilà, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans mes réflexions en ce moment. C'est drôle que tu m'en parles.
Oui, si, si, c'est très clair. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, c'est que aujourd'hui, tu es quand même, tu fais partie d'un énorme projet. Cette expérience, l'héritage Goldman. C'est vrai que certains artistes pourraient se dire « Ah voilà, ça y est, je suis arrivée à un sommet. » Et moi, je trouve que dans ce que je perçois, dans ce que je vois, tu gardes beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Je trouve que c'est très touchant. Et je trouve même qu'il y a presque une étincelle enfantine dans tout ça.
Ah ouais, c'est possible. C'est possible parce que... C'est vrai que l'espace scénique, c'est un espace où vraiment on peut s'autoriser beaucoup beaucoup de choses qu'on ne s'autorise pas dans la vie de tous les jours pour tout un tas de raisons. Et donc c'est vrai qu'il y a un bonheur et une joie très enfantine d'être d'expérimenter les choses comme ça sans comment dirais-je. En faisant fi un petit peu des codes, quoi, en ouvrant complètement les vannes. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, en fait, dans le métier que je fais. Et oui, non, c'est une chance incroyable, ça. Incroyable. J'arriverai jamais à me. Enfin, je crois. Hein, mais bon, je suis loin d'avoir tout fait, mais j'ai eu l'occasion quand même de faire des choses très très variées, et jamais je me suis ennuyé ou je n'ai trouvé ça répétitif ou laborieux, parce qu'il y a toujours une relation qui s'établit avec un public en face, et puis alors c'est toujours quelque chose de neuf, de nouveau, et c'est magnifique, quoi.
Carrément. Je reviens un petit peu sur le premier épisode qu'on avait donc enregistré. Quand je posais la question « Quelles sont les personnes marquantes dans ton parcours ?» tu citais plusieurs personnes, mais tu en citais une qui, aujourd'hui, prend toute sa place, je dirais.
Je t'ai donné deux exemples, mais j'aurais pu citer également Eric Benzi, qui était un comparse de Jean-Jacques Goldman sur album et à la scène, qui a travaillé avec des Johnny Hallyday, des Céline Dion, avec des grandes pointures comme ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur un spectacle musical dans lequel j'étais interprète, qui le titre était Un été 44.
Si je te dis Eric Benzi.
Oui. Ah oui.
À l'époque, tu le citais déjà. Tu disais donc que c'était quelqu'un qui t'avait aidé. Et aujourd'hui, il est aussi, d'une certaine manière, sur ton parcours, non?
C'est lui, tout à fait. C'est lui qui m'a appelé pour rejoindre l'Héritage Goldman, en fait, pour faire partie de toute cette aventure-là. Et ma rencontre avec lui a vraiment changé énormément de choses et m'a permis d'emprunter des chemins que j'aurais jamais imaginé emprunter et puis de vivre ces moments-là sur scène, quoi.
Ouais.
Et parce que c'est quand même la scène, c'est quand même vraiment le point d'ancrage de tout ça, l'espèce d'accomplissement de tout ce qui peut être fait en termes d'enregistrement, d'écriture, de création, etc. Ça, c'est sur scène que vraiment à un moment donné les choses se passent, quoi. Et là vraiment je peux vraiment je suis repu de ça, quoi. Donc c'est Et tout ça, enfin, grâce à ma rencontre avec lui, et puis après à ce lien qu'on a, et puis après, par ailleurs, c'est un être humain absolument formidable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de la personne qu'il est en face, qui est curieux de plein de choses. Tu parlais des plaisirs enfantins. Il a vraiment quelque chose. Enfin, il a les yeux qui brillent de manière vraiment comme un gosse dès qu'il parle d'une chanson, de quelque chose. C'est évidemment lié à l'artistique, mais dès qu'il en parle, il y a cette passion-là, ce truc qui s'allume dans ses yeux. Et c'est génial, quoi.
Génial, oui, carrément.
Mais oui, absolument.
Est-ce que tu as l'impression d'être passé un peu comme Alice de l'autre côté du miroir avec ce projet ? C'est quand même un énorme projet qui a quand même une portée nationale. Certainement, vous allez traverser aussi les frontières. Goldman est quand même un artiste qui est extrêmement important, qui fait partie justement de l'héritage dans la chanson française et puis qui a marqué beaucoup aussi les publics. On a tous une chanson de Goldman quelque part, tu vois, qui se relie à quelque chose dans notre vie. D'ailleurs, tu en chantes plusieurs seules. Et certaines qui sont très importantes aussi, justement, très marquantes. Et de faire partie d'une aussi grosse, j'allais dire, machinerie, d'un aussi gros projet, est-ce que du coup, tu as l'impression d'être un peu comme un enfant qui voyait ça un peu à la télé, de loin, et tout d'un coup, paf, toi, tu y es.
Oui, alors oui et non, parce que les choses sont venues progressivement. Oui. Donc, ça ne s'est pas passé comme si j'avais... pu imaginer et peut-être fantasmer tout un tas de choses, puis d'un seul coup, la réalité se faisait, puis je l'expérimentais. Les choses se sont... Vraiment, il y a eu un parcours et une initiation à tous les niveaux, quoi. Ou à chaque fois, mais que ce soit un concert sur un zénith ou un concert dans un bar, le moment où la chose est fantasmée parce qu'on se l'imagine, et puis après, il y a la réalité avec laquelle on se construit, quoi. Oui. Et là... Là, comme c'est venu de manière progressive, j'ai pas cette impression d'avoir pris... Maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment massif que j'expérimente, c'est me retrouver devant un public aussi nombreux et qui est acquis, c'est pas un joli mot, mais dont on sait qu'il est quand même, vu les chansons qu'on est en train de porter,
bien sûr.
Mais ça va. Oui, on a pas, le travail, il a été fait par quelqu'un d'autre à 90%. Nous, on n'a plus que les 10% à bien faire, quoi. Et c'est vrai que cette sensation-là, elle est vraiment très, très neuve parce que ce que tu te prends sur scène en termes d'énergie, c'est puissant. C'est très, très, très puissant. Ça, par contre, c'est quelque chose, là, j'avais jamais mis le pied derrière le miroir et je suis en train de le faire. C'est très, très fort. Et c'est ça qui est très chouette, quoi. C'est que les gens viennent vraiment écouter un répertoire. Oui. Servi évidemment par des interprètes, mais quand il m'arrive de discuter avec les gens, je remarque vraiment que c'est des gens qui viennent vivre des moments ensemble. Ils viennent souvent à plusieurs, en groupe. Et ils viennent revivre des choses ensemble. Et ils ont comme ce besoin, quoi. Ils sont vraiment sur les chansons. Et c'est ça qui est bien parce que c'est exactement l'esprit, en fait, de cet héritage Goldman.
Tu as donc d'autres projets ?
Oui, c'est encore flou. En même temps, ça se précise parce que j'y travaille. Oui. Mais là, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est le principe du « j'aime pas lire ».
Oui.
Je parle d'un personnage qui n'aime pas lire parce que la lecture, pour lui, ça a toujours été comme, je sais pas moi, un plat de lentilles, par exemple, qu'on lui servait quand il était à table. Il avait bien conscience que il fallait manger ça parce que ça donne des forces et ça va permettre de faire sa journée. En même temps, il n'en raffolait pas. Puis il se retrouve des années après à se surprendre à se les préparer lui-même, les lentilles. Et donc, en fait, c'est pareil pour la lecture. C'est qu'est-ce qui fait que à un moment donné, même si on n'aime pas lire... Il y a une nécessité de le faire au quotidien sur tout un tas de types d'écrits et par-delà la nécessité, il peut y avoir, je ne sais pas si c'est du plaisir, mais quelque chose, une nourriture spirituelle attirée de la lecture. Et c'est là-dessus que je travaille au travers de textes que je suis en train de choisir. En fait, je suis en train d'explorer plein pour essayer de construire un spectacle comme ça. Alors là, pour l'instant, j'aimerais bien faire quelque chose qui est la forme d'une espèce de conférence musicale pour parler de ces choses-là. Voilà. Toujours dans la transmission du texte, de textes existants pour simplement dire, regardez, ils existent et ils sont beaux, quoi. Et évidemment, en s'adressant, de prime abord à un jeune public qui est concerné par l'apprentissage de lecture, mais pas seulement. Voilà, l'idée, c'est de, comme pour le Petit Prince, de proposer un spectacle qui puisse fédérer une famille entière, en fait.
On te suivra aussi dans cette nouvelle aventure. On arrive bientôt au bout de cette petite conversation. Dans le premier épisode, tu concluais en disant...
Allons chercher le beau, traquons le beau, toujours, toujours, toujours.
Aller vers le beau, il faut aller vers le beau. Et ces dernières années, avec tout ce contexte social, économique, politique, mondial, on a tous et toutes envie d'aller vers le beau. Comment ça se traduit aujourd'hui pour toi ?
De là où je me trouve, c'est pas compliqué de voir le beau. Et tu vois, j'essaie de... Enfin bref, en ce moment, je sais pas si tu as vu, mais il y a plein de panneaux de villes qui sont retournés.
Oui.
C'est les paysans qui font ça, c'est les agriculteurs, parce qu'ils sont saignés sous les taxes. Ben, j'essaie de me dire, essaie de penser deux secondes à la place d'un de ces gars-là. Comment est-ce que lui, il va pouvoir voir le beau, quoi? Ou tu vois, une mère de famille seule qui conduit un vieux diesel pourri et à qui on rabâche toute la journée et qu'elle pollue. Comment est-ce qu'elle va faire pour voir le beau? Ça, pour moi, ça reste... je vais pas dire un mystère, je me dis, ouais, le travail, il est là à faire.
Ouais.
Tu vois, moi, de là où je me trouve, c'est pas difficile.
Et puis, j'ai envie de dire aussi que tous les spectacles auxquels tu participes ou que tu vas participer, ça nous emmène aussi vers le beau. C'est beau aussi de se réunir autour de la musique et de partager.
C'est
un peu ta contribution.
Voilà, c'est comme ça. J'inclus ça dans tout cet aspect de transmission dont tu parlais tout à l'heure. Essayer de proposer des choses comme ça qui vont, juste le temps d'un instant, pouvoir tourner le regard d'une personne vers quelque chose qui vaut la peine, quoi. D'être lu, d'être considéré, qu'on s'y penche deux secondes. Et voilà. Et puis après, tu continues ta route et puis t'en fais ce que tu veux, quoi.
Mmh.
Et si les formes artistiques peuvent servir, enfin, arrivent déjà à susciter ce genre de réaction, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup.
En tout cas, merci.
Avec plaisir.
Je t'embrasse, Tomislav.
Moi aussi. Ciao,
merci. Salut.
Ciao.
Jean-Baptiste, bienvenue encore une fois au micro de l'entrée des coulisses.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai tenu à te réinviter parce qu'il y avait une raison particulière. Figure-toi qu'en fait, tu étais le premier invité que je ne connaissais absolument pas.
Ah oui.
Contrairement à mes premiers invités dans la première saison que je connaissais très bien pour différentes raisons, notamment dans le cadre de mes activités culturelles et professionnelles, ou alors que je connaissais dans la vraie vie parce que c'était plus ou moins des amis, mais toi, tu étais le premier invité que je ne connaissais pas du tout.
D'accord, je vois.
Je voyais passer sur Instagram, à l'époque, tu postais pas mal de choses sur le Roi Lion.
Ouais, bien sûr.
Et je trouvais ça super sympa et et ça m'a intrigué tout ça, donc je suis allée voir ton compte Instagram, j'ai vu plein de choses et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant d'interviewer ce jeune homme. Donc, ce qui a été fait, tu étais donc l'invité principal de l'épisode 3 de la saison 3. Et le titre que j'avais choisi pour ton interview, c'était « Le plaisir de jouer ». T'étais OK avec ce titre-là ?
Bien sûr. C'est la base. On pourrait mettre le même titre aujourd'hui. Hein. C'est toujours le cas.
On va y revenir un petit peu, tu vas voir. Déjà, j'aimerais te poser une question.
Bien sûr.
Quelle a été ta réaction quand je t'ai contacté pour le podcast ? Raconte-moi un peu.
Pour la toute première fois où tu m'as contacté pour le podcast, j'avoue que j'étais très surpris. J'avoue que j'étais très surpris parce que, comme tu l'as si bien souligné, on ne se connaissait pas du tout. Et du coup, j'ai quelqu'un que je ne connais pas du tout qui me dit, je rentre en contact avec toi, j'aimerais qu'on discute ensemble sous forme de podcast, un peu de ton parcours, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter et qu'est-ce qui va être assez intéressant pour être mis dans un podcast? J'étais vraiment très très intimidé, très impressionné parce que je me suis dit j'espère que ce sera assez intéressant pour pouvoir figurer dans l'entrée des coulisses.
Qu'est-ce que tu en as dit? Des choses très intéressantes, justement.
Ouais, j'ai un très bon souvenir. On avait pu vraiment échanger sur pas mal de choses et oui, ma réaction, ça a été celle-là. Je me suis dit, j'espère qu'il y a assez de choses intéressantes à dire sur mon parcours pour que ça puisse paraître dans le podcast et j'en garde un très bon souvenir.
Ouais, justement, c'était une de mes autres questions, c'est comment tu as vécu l'interview en elle-même ce jour-là?
Eh bien, un peu comme maintenant, peut-être un peu plus détendu vu que c'est la deuxième fois du coup, mais y a un côté un peu, un côté un petit peu stressant, un peu un stressant et intimidant parce que je sais pas, on a envie de bien faire en fait simplement et parler de, ça parle quand même beaucoup de nous-mêmes, donc parler de soi comme ça et répondre à ce genre de questions, c'est un exercice compliqué je trouve. Face auquel je pense que je peux avoir un peu de mal mais je me prête au jeu grand volontiers et je me dis que ça fait pas de mal de se prêter à l'exercice, mais c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir, vraiment.
Au moins ça. Est-ce que par curiosité, est-ce que quelqu'un t'en a parlé de cet épisode dans ton entourage? Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de pouvoir l'entendre? Il est toujours en ligne, hein, de toute façon.
Oui, je l'avais relayé sur les réseaux sociaux. J'avais des personnes qui l'avaient écouté et qui m'avaient fait des retours. Enfin voilà, qui avaient trouvé ça intéressant dans le sens où il y avait des infos que les gens n'avaient pas, voilà, spécialement sur des trucs que j'ai pu dire ou expliquer et ouais, un peu de surprise quoi, et c'est ça qui est super. En fait, on se livre, des fois on dit des choses que les gens ne savent pas sur notre parcours et ça permet d'apprendre à connaître les gens et en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu en écoutant les autres épisodes que tu as sortis sur ce même format et d'autres artistes puisque j'en ai écouté.
Ah, je ne savais pas, ça fait plaisir. Super.
Ouais, bien sûr, je voulais connaître la structure de cette conversation, de celle qu'on aurait en tout cas. Et du coup, ça m'a permis quand même de me rendre compte que c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là auquel on s'attend pas sur des artistes qui ont un autre vécu que le nôtre et qui vont avoir un prisme de leur métier, de ce qu'ils réalisent totalement différent du nôtre. Et même si on ne connaît pas ces personnes-là, ça nous rend curieux finalement. On a envie de savoir ce que ça donne sur scène, ce que ça donne à écouter pour des artistes musicaux. Donc l'exercice est vraiment top.
Alors justement, on va reparler un petit peu de deux petits passages de cet épisode-là à l'époque. On a beaucoup parlé de la question de l'enfant intérieur. Je te disais, j'ai l'impression que ton métier te permet de garder vivant et actif ton enfant intérieur. Et tu m'avais répondu, une très jolie réponse, mais surtout j'ai retenu une phrase.
Ouais, cet enfant que j'ai à l'intérieur de moi, je veux pas le faire taire. Je trouve qu'il a raison d'exister et il faut l'écouter. Il faut aussi lui apprendre des choses, mais il faut l'écouter, c'est important.
Alors, j'espère, Jean-Baptiste, que tu ne l'as toujours pas fait taire, cet enfant intérieur.
Non. Je crois que c'est de pire en pire même.
Ah.
Enfin, de mieux en mieux, mais du coup, si... Si on prend par là, non, bien sûr, pas le faire taire, c'est une mission de tous les jours et c'est le but de continuer à le faire exister et puis de le rendre beaucoup plus légitime aussi, je crois, avec le temps qui passe, on a tous cet enfant-là intérieur et puis on le cache un peu aux yeux des autres parce qu'il y a quelque chose de très intime là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression que plus on avance dans les expériences, dans les projets, et plus on se sent légitime de dire non, en fait, il existe. En fait, c'est mon moteur, c'est un référent que je consulte régulièrement, et c'est comme ça. Et ça fait partie de moi. Et c'est d'ailleurs une des meilleures représentations de moi. Et donc voilà, pour répondre à ta question, non, évidemment, on ne le fait pas taire et on lui donne presque la parole en fait maintenant. On lui donne encore plus la parole. On lui fait confiance.
Super. Tu nous racontais aussi que tu avais beaucoup appris directement sur scène, que c'était un parcours autodidacte dont tu étais très content, mais que cela pouvait avoir quelques manquements parfois. Alors, depuis cette première interview, tu as poursuivi ton petit bonhomme de chemin d'artiste. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau qui t'a fait progresser ?
Tellement de choses en fait depuis et pour autant j'ai l'impression d'avoir appris encore énormément de choses. Je crois que la chose qui m'a le plus servi dans ces derniers mois, ça a été le fait de me faire un peu plus confiance, je crois. Et ça peut paraître bête dit comme ça et très simple, Mais mine de rien, il y a quelque chose d'extrêmement difficile dans ma manière d'aborder ce métier-là, dans le fait, et je crois que pour beaucoup d'artistes, peut-être, qu'est la confiance en soi. Se faire confiance tout bêtement sur des ressentis qu'on a, une manière d'aborder une scène ou un metteur en scène ou des collègues ou des difficultés, tout simplement. Et là où avant, il y a des choses qui pouvaient m'atteindre beaucoup plus profondément, je pense, qu'on garde en soi, hein, mais des choses qui peuvent nous atteindre beaucoup plus profondément. Là où maintenant, j'ai l'impression que je vais être capable de prendre plus de distance sur certaines choses, sur certaines difficultés, par exemple, ou même sur certaines choses qui nous flattent, ou voilà, avoir en fait un petit peu plus de recul sur pas mal de choses, se rendre moins responsable du mauvais, mais comme du bon aussi. Il y a même dans les bonnes choses, il faut aussi prendre un petit peu de recul, je crois. En tout cas, ouais, la confiance en moi et apprendre à m'écouter un petit peu plus, c'est vraiment quelque chose, je pense, que j'ai appris là ces derniers mois, et ça m'a fait grandir artistiquement. Je sais que ça m'a fait grandir.
C'est un très très bel enseignement.
Ouais, carrément. Et puis c'est pas fini, en fait. Je crois que ce sujet-là particulièrement, je crois qu'il dure très longtemps.
Mais justement, tu nous racontais aussi dans ce premier épisode que tu avais débarqué dans le milieu artistique sans aucune relation, sans aucun piston, et que ce n'avait pas été facile. J'ai envie de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu viens de nous parler de plus de confiance en toi, etc., mais du coup, cette question est peut-être liée. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens plus intégré à la grande famille du spectacle ?
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, plus intégré, disons que oui, il y a toujours une question de légitimité quand on est artiste. Je crois, il y a un moment donné, on fait des choses et puis on se sent pas toujours légitime d'être là. On se dit oui, mais on est encore bien en dessous de telle personne, de tel profil, de tel artiste, de tel metteur en scène. Et puis en fait, la liste est immense. Et puis on se rend pas compte en avançant qu'en fait, sur notre parcours, on prend la place finalement des gens qu'on voyait au-dessus de nous, et finalement d'expérience en expérience, on se rend compte que ben, en fait, on fait des choses qui sont tout aussi importantes et impressionnantes, si c'est ça qui nous attire, et on se sent en fait malgré nous intégré dans cette famille-là par le fait d'en faire l'expérience. En fait, il y a pas quelque chose qui nous dit à partir de maintenant vous êtes en mesure de l'intégrer, cette famille. Je crois qu'on est dedans et qu'on se bat toujours pour se sentir légitime d'y être, mais on est dedans dès le départ, je crois. Ouais, en y réfléchissant, je pense qu'on y est. On y est et on essaye toujours de se rassurer en se disant « Ouais, quelque part, j'ai ma place. J'ai quelque chose à dire et à défendre. Et ça me rend plus légitime. » mais voilà, je crois qu'on est déjà dedans.
Du coup, maintenant, ce qui serait intéressant pour nos auditeurs et auditrices, et aussi pour moi, ce serait que tu nous parles de tes projets actuels. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es sur scène.
Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Oui, j'ai la chance d'être sur scène, alors plus particulièrement au Théâtre des Mathurins en ce moment, dans la pièce Les Aventures de Pinocchio, mise en scène par Olivier Soliveres, où j'interprète le rôle de Pinocchio aux côtés d'une équipe qui est extraordinaire. Enfin, vraiment, c'est un super spectacle. C'est un spectacle qui est super cool, c'est familial. Ouais, c'est un spectacle familial, mais vraiment les adultes y trouvent leur compte et on fait vraiment voyager les enfants. Il y a très beaux effets, c'est très poétique, il y a de belles références et les gens rient beaucoup. C'est très interactif. Donc voilà, Les Aventures de Pinocchio, Théâtre des Mathurins, qui jouera jusqu'au 8 mai 2024.
Ah, ça, c'est chouette, on a le temps d'aller te voir.
Pour être plus précis, on joue les week-ends et puis tous les jours des vacances scolaires. Et je prends un plaisir monstre à jouer ce rôle d'enfant passage. C'est vraiment super cool.
Mais c'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà, encore relié à l'enfance.
Et oui, toujours.
Parce que le Roi Lion, tu jouais le Simon 4. Oui, voilà. Voilà, c'est vraiment, il y a un lien très fort quand même à l'enfance. Les spectacles aussi que tu as écrits et joués. Enfin, il y a toujours ce lien-là comme ça. C'est drôle, je trouve.
Et et quelque part, je trouve presque pas ça étonnant. Ça veut dire que je vais pas dire que je cherche rien d'autre, mais je me sens à ma place dans cet exercice-là. Et après, j'ai eu aussi la chance immense, si je peux en parler, d'être sur un projet qui est toujours qu'on peut toujours se procurer aujourd'hui, qui est un projet de série audio qui s'appelle Mémoire de la forêt. Et en gros, j'ai eu la chance d'interpréter la voix d'un personnage très récurrent d'une série de romans écrits par Michael Brun-Arnaud, édité à l'École des loisirs, qui est du coup disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ça s'appelle donc Les Mémoires de la forêt. Et c'est une aventure poétique et extrêmement émouvante d'un libraire, d'un renard libraire. Ça se passe dans une forêt, la forêt de Belle Écorce, de son nom. Et du coup, j'interprétais le rôle d'un renard libraire qui aidait une petite taupe atteinte de la maladie de l'oubli-tout, qui est en fait un beau parallèle à la maladie d'Alzheimer, à retrouver ses souvenirs. Et c'est pour la jeunesse et pour évidemment aussi les adultes, parce qu'on y verse évidemment sa larme. Mais du coup, c'est pour la jeunesse et c'est une manière d'aborder cette question qui est parfois très compliquée à aborder avec les enfants. Ça permet de l'aborder avec beaucoup de légèreté. Les personnages sont hauts en couleur et le travail de son, de mixage et de composition musicale, parce que ça chante aussi dedans. Le travail est vraiment hyper fini. C'est très, très agréable à écouter. Donc ouais, je vous invite vivement à vous la procurer, parce que c'est en 6 épisodes de 20-30 minutes et sur une saison complète, et ça reprend le tome 1 uniquement, et je crois que les deux autres tomes là sont disponibles à l'achat aussi.
Je mettrai bien évidemment les liens dans la description de l'épisode, bien évidemment. Donc Jean-Baptiste, tu nous disais aussi, si je reviens un peu sur le premier épisode, que tes parents avaient un petit peu flippé de te voir aller vers la voie artistique. Bon, oui. Je crois que ça s'était arrangé. Bon, aujourd'hui, ils sont rassurés, dis-moi.
Oui, oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Ils sont extrêmement rassurés. Ils sont même mes premiers fans. Il y a quelque chose de super là-dedans que ça se soit renversé à ce point. Et aujourd'hui, ils auraient tendance à squatter tous les premiers rangs. C'est une chance et c'est toujours, c'est rigolo, mais c'est toujours autant de pression. Par exemple, à la date là où on enregistre ce podcast, je sais qu'ils reviennent me voir demain dans Pinocchio et mine de rien, il y a des personnalités parfois un peu publiques qui viennent nous voir, qui sont dans la salle. Et c'est toujours... on a tendance un petit peu à se dire « Oh là là, il y a un tel qui est là dans la salle ce soir » et à s'en faire une montagne. Là où c'est vrai que je ressens pas grand-chose. Après, tiens, ça me met pas de trac supplémentaire. Mais alors, mes parents, la famille, les amis, les gens qu'on connaît d'aussi près qui viennent nous voir, ça me met beaucoup plus la pression. Et je suis très, très heureux de cette situation-là. Et je les remercierai jamais assez d'être autant dans le soutien aujourd'hui.
Alors, dis-moi, on va terminer cette petite conversation, ce petit retour sur ton épisode. Mais cette fois-ci, je vais te poser une question que je crois que je t'avais posée d'une manière un peu différente à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est devenu une question rituelle, en fait, dans la nouvelle saison.
D'accord.
Et la question est, que se passe-t-il pour toi dans les coulisses, juste avant de monter sur scène ?
Ah, c'est intéressant de la reposer un peu plus tard. Et je ne sais plus ce que j'avais répondu la dernière fois. Donc on pourra faire le lien. J'irai réécouter par curiosité juste après. Mais qu'est-ce qui se passe en coulisses ? Eh bien, là, pour parler par exemple des aventures de Pinocchio, au Mathurin, je sais que les quelques temps avant de monter sur scène, il y a quelque chose de super, c'est que si on reprend l'histoire de Pinocchio, on est sur une marionnette en bois, un pantin de bois qui est inanimé, qui n'existe pas, qui est pas vivant du tout en début de l'histoire, et puis que c'est la fée bleue qui l'anime par un coup de baguette magique et qui le rend vivant. Et en fait, je crois qu'un des réflexes que j'ai à ce moment-là, c'est de faire le vide. Il y a un côté où c'est bizarre, mais je me rends mort pour mieux reprendre vie. Et il y a quelque chose de très, très physique là-dedans. Je fais le vide absolu dans ma tête et dans mon esprit. Et pour qu'au moment où la baguette magique retentit, où le sort est jeté, je puisse redécouvrir le monde de mes propres yeux pour la première fois. On s'auto-persuade qu'on est en train de redécouvrir tout ce qui nous entoure pour la première fois. Donc voilà, donc je dirais que ce qui se passe juste avant de monter sur scène, c'est ce vide. refaire le vide, oublier contexte, l'histoire, le quotidien, tout évincer et redevenir un ouais, presque un objet en fait. C'est bizarre à dire comme ça, mais dans le cadre de Pinocchio, c'est très vrai. Redevenir un objet et d'un seul coup reprendre vie.
C'est beau.
Non, ça c'est très cool.
OK Jean-Baptiste, ben écoute, fin de notre petite conversation. Je te remercie encore vraiment beaucoup de m'avoir accordé ton temps.
Ben c'est moi qui te remercie. Je suis très touchée encore une fois de pouvoir être ici.
En tout cas, comme je sais que tu joues tous les week-ends et les vacances scolaires, un jour ou l'autre, je serai certainement dans le public, quelque part.
Ah, ben avec plaisir. Avec plaisir, super.
Mais en tout cas, voilà, en tout cas, les liens sont dans la description de l'épisode. Et donc, on encourage tous nos auditeurs, auditrices à y aller avec leurs enfants ou même en tant que grande personne.
Mais
ça
oui.
Se fait aussi. Et donc, bah, je te souhaite une très, très belle continuation, de très, très belles représentations. Et peut-être à une prochaine fois pour d'autres projets, qui sait.
Eh ben, merci beaucoup, merci infiniment pour l'invitation et très très bonne continuation et très longue vie à l'entrée des coulisses, évidemment.
Merci. Diefa, j'ai l'impression qu'on a déjà vécu ce moment, non ?
J'ai l'impression, oui.
Hein, toi et moi, dans ce petit studio cosy, le petit studio de Tsipora au cœur de Paris, et devant deux micros. Ah, on a déjà vécu ça.
On a déjà vécu ça. J'aime beaucoup ces petits entretiens. Tu es un peu mon ami public, j'ai envie de dire.
T'as vu ça ?
C'est ça.
Écoute, aujourd'hui, je te redonne le micro de l'entrée des coulisses parce que c'est un épisode spécial où on revient un peu sur les invités qui se sont succédés ici. Et moi, je tenais à t'inviter parce que, en fait, tu as été la première que je rencontre en vrai, que j'interview en vrai, en face à face. Et bah, je voudrais te remercier pour ça, parce que si tu n'avais pas évoqué cette possibilité, enfin presque cette condition, bah, je ne l'aurais jamais fait. Je serais restée à l'abri dans mon bureau par écran interposé. Et donc, vraiment pour ça, je t'en remercie, parce que du coup, voilà, les interviews sont certainement très différentes. Mais parfois, certains invités habitent trop loin, et ça, je ne peux pas faire autrement. Du coup, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cet épisode de podcast. Pour les auditeurs, auditrices, et puis pour moi aussi, pour notre curiosité, moi, j'aimerais savoir, à l'époque, quand tu as reçu cette invitation, comment tu l'as pris, comment tu l'as vécu ?
Bah, alors d'abord... j'étais content parce que je suis à un stade de création, je suis à un stade aussi d'évolution de carrière, on va dire, où je suis pas quelqu'un qui pèse dans le game, on va dire. Mmh. Et du coup, c'était un petit peu comme une validation quelque part de ouais. Ah bah tiens, les gens s'intéressent à moi ou les gens me découvrent. Donc il y avait vraiment quelque chose de très flatteur dans cette invitation. Et du coup, ça me fait aussi revenir sur la condition, une condition qui était pour moi un petit peu sine qua non à partir du moment où, oui. où elle était possible, c'est avoir cette relation face à face, parce que même si on est des voix là qui parlons ensemble, il y a quelque chose d'humain, il y a quelque chose qui tient de la chair, de la vibration et du partage où j'ai vraiment besoin d'être connecté à l'autre intellectuellement, mais aussi de façon physique, parce que il y a quelque chose qui s'exprime dans le physique par le corps. On a le langage du corps, comment on se tient, comment on vit, et quelque chose qui va pouvoir répondre aussi de façon différente. Pour avoir été ton intervieweuse, j'ai conscience à quel point finalement la réponse se joue différemment. Comment on va regarder dans le vide, comment on va tourner la tête, comment
bien
on va
sûr,
bouger
ouais.
les mains, etc. Même si on est assise et qu'on fait pas grand chose, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent par le corps. Il y avait vraiment cette joie d'exister pour quelqu'un et en même temps aussi la joie de quelqu'un qui était prête à accepter mes conditions, un peu comme
oui.
J'étais un peu une Maria Carré à ce moment-là, et finalement de laisser de la place à son univers, dans son univers, et d'adapter son univers. Et ça, c'était c'est une belle chose.
Ouais. Et donc, justement, l'interview en elle-même. Parce que moi, je me rends pas compte. Je prépare mes questions, bien sûr, j'en ai souvent parlé, hein, comment je travaille. Mais l'interview se passe, moi j'ai un ressenti, un vécu. Mais du coup, toi, parle-nous de ton expérience de cet enregistrement pour ton épisode. Comment tu l'as vécu ?
Alors, c'est très difficile, bizarrement, pour moi, parce que en tant qu'artiste-interprète, on est cette espèce de chose sur scène. En tant qu'auteurice, je suis aussi cette chose parlante et en tout cas qui crée du mot, qui crée du verbe, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Et dans cet exercice de l'interview, je trouve très difficile de tout d'un coup livrer sa pensée sans l'avoir réfléchi avant.
Et oui, parce que les invités ne connaissent pas les questions. Et je fais exprès, justement, pour garder de la spontanéité.
J'ai énormément apprécié, moi, ce moment. Je me suis senti la liberté de pouvoir dire tout ce dont j'avais envie. Tes questions m'ont aussi amené à dire énormément de choses que j'aurais peut-être pas dites spontanément. Et dans ce temps un petit peu long qu'on a sur ces interviews, j'ai beaucoup aimé aussi cette liberté de partir en digression. Un petit peu comme lorsque je t'ai interviewé. Ouais. Il y a cette espèce de chose où finalement on répond à la question et en répondant à la question, on a voilà une digression, puis autre chose qui vient, etc. Et il y a quelque chose dans ce temps long qui, moi, me fait complètement penser à mon rapport à ma psy, hein, quelque chose de complètement psychanalytique, qui à la fois permet de livrer plus et qui laisse aussi le temps de la réflexion de livrer mieux.
En tout cas, dans ton épisode, il y avait quelque chose d'un peu particulier. Et du coup, j'aimerais que tu nous donnes des nouvelles. À l'époque, je piochais des questions des auditeurs et des auditrices qui étaient destinées donc à l'invité. Et toi, je me souviens qu'il y avait une certaine Isabelle qui t'avait posé une question et qui, dans son message sur Instagram, je crois, me disait « Je l'ai connue, j'ai connu Diefa il y a longtemps et donc j'aimerais lui poser cette question ». Du coup, cette fameuse Isabelle, est-ce que vous avez été en contact ? Est-ce que tu l'as revue ? Raconte-nous, parce que quand même là, on voudrait savoir.
Alors, c'est assez amusant. Isabelle est la sœur d'une de mes rares amies. Et finalement, Isabelle, on s'est croisés à de multiples reprises, mais on s'est peu connus. Je suis presque un petit peu frustré parce que elle est venue voir le spectacle. Ah. Je l'ai vue dans la salle, mais j'ai pas eu l'opportunité de la voir après. Dommage. Et d'échanger après. Donc, il y a un lien un petit peu sur Instagram, mais c'est vrai que c'est, tu sais, ces personnes qui sont un peu loin proches,
oui,
ou finalement, ou presque, j'ai l'impression qu'elle en voit et qu'elle en sait beaucoup plus sur moi que l'inverse.
Oui.
Je sais qu'elle a aussi un podcast, qu'elle a une passion aussi pour le théâtre. Et Isabelle, si tu m'entends, reviens vers moi et tu peux revenir voir le spectacle. Je rappelle que toutes les personnes qui sont déjà venues voir le spectacle sont après invitées. Donc les gens peuvent revenir voir le spectacle. Leur place est offerte par ma personne.
Très bien, mais c'est très généreux. En tout cas, les liens seront, comme d'habitude, dans la description de l'épisode, bien évidemment. Est-ce que tu as eu des échos de ton interview ? Est-ce que des gens t'en ont parlé ?
Il y a une personne qui m'a fait des retours positifs sur l'interview. Et ça m'a un peu rassuré parce que c'est vrai que j'ai énormément de mal avec le fait de m'entendre. J'ai du mal avec ma voix. Et je ne me suis pas aimée. Moi, quand j'ai écouté écouté le podcast.
Pourtant, tu as une belle voix, bien timbrée, bien posée, apaisante.
Alors, c'est gentil. je prends. Tu vois, là-dessus, par exemple, je me dénigre pas sur la qualité de ma voix ou la qualité de mon verbe. Mais par exemple, aujourd'hui, je fais très attention à essayer de faire des phrases où je parle beaucoup plus vite. Je ne supporte pas dans l'écoute de ce podcast cette espèce de chose hyper hachée où j'ai beaucoup pris le temps de réfléchir chacun de mes mots. Mmh. Et du coup, cette personne qui m'a dit que ça lui avait plu, que c'était intéressant, m'a un petit peu rassuré sur cette forme. Moi, c'est vraiment la forme. Je l'ai écouté une fois, je me suis un peu forcé à l'écouter en entier parce que je me suis agacé,
ah oui,
surtout. Sur le fond, je suis très contente de mes réponses et je suis très content des questions que tu m'as posées qui m'ont amené ces réponses, qui m'ont permis de livrer des choses que j'ai pas eu l'opportunité de livrer ailleurs. J'ai adoré le fond et j'ai des problèmes sur la forme, mais mais grâce à l'interview que tu m'as laissé faire de toi et peut-être celle d'aujourd'hui, peut-être que je vais commencer à apprécier ma voix et mon élocution, tout ça.
Mais oui, très certainement, bien sûr. Eh ben écoute, Diefa, merci pour ces retours. En tout cas, ton spectacle continue, progresse, va encore progresser, j'ai bien cru comprendre.
Je suis sûre et certaine de faire, dans les mois qui viennent, une réécriture du spectacle. Donc il y aura normalement 2024, une V, je ne sais plus si je suis à la V3 ou la V4, mais le spectacle évolue parce que le spectacle est vivant.
Merci Diefa d'être revenu encore une troisième fois à ce micro.
Merci à toi.
Et puis merci pour la belle rencontre aussi.
Merci à toi aussi pour ça.
C'est la fin de ce premier épisode hors série de la saison 4. Un deuxième épisode suit sur le même principe, retrouver des ex-invités du podcast. En attendant, jetez un œil sur le compte Instagram de l'Entrée des coulisses. Nous pouvons y papoter directement. C'est chouette ça, non ? Allez-y, on referme les coulisses.